Ce matin, c'est un sujet un petit peu spécial pour l'action de grâce. Si on peut mettre le PowerPoint. C'est ça, le chrétien qui souffre. Et puis on pourrait se dire, on aurait pu mettre ce thème-là sur un autre matin qu'aujourd'hui. Mais le Seigneur nous dit qu'il faut rendre grâce en toutes choses. Merci Louise de m'aider. Et puis, il y a des fois des difficultés qu'on vit, là, puis c'est pas comique, c'est difficile, ça nous déstabilise, ça nous met à l'envers, puis on se demande, tu sais, pourquoi? C'est pas assez fort. Hey, là, on m'a dit de mettre plus fort. J'ai eu plusieurs plaintes que je parle pas assez fort. Il y a presque... Est-ce que c'est assez fort? Dites-le moi, là, parce que je veux pas parler tout le temps et que c'est pas assez fort. Donc, tu sais, je veux pas parler de quand ça va mal, quand on souffre, pour des raisons qu'on connaît. Tu sais, c'est moi qui dois contrôler ça. Où est-ce qu'il est, la patente? Merci beaucoup. Ça va aller mieux avec ça. Parce que, bon. Tu sais, des fois, il y a la persécution. On le sait. Ça existe dans plein pays dans le monde. Nigeria, Pakistan, Iran. Tu sais, où est-ce que nos frères et sœurs chrétiens sont persécutés? On sait que ça va mal, mais on sait pourquoi. C'est des lumières dans les ténèbres, selon moi. Ils brillent, et puis ils font connaître, et puis ça dérange. Ça, je me dis, c'est quand même, je comprends. Si c'est une autre situation, ici c'était un pasteur et sa femme qui avaient volé des millions à leur église. Puis on sait, il y a des scandales financiers, il y a des scandales sexuels, parmi les chrétiens, puis s'ils souffrent pour ça, bon, on comprend. C'est moins difficile, il me semble, quand on comprend. Ben, ça dit ici là que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, non, on se dit, écoute donc, mais pourquoi qu'il souffrirait comme chrétien? Qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Et c'est ça qui est difficile là, quand on souffre, puis on comprend pas pourquoi. Et puis c'est comme des souffrances nowhere. Tu sais, ça n'a pas de sens. Veux-tu bien me dire pourquoi que le Seigneur m'envoie ça? Je sais pas si vous avez déjà éprouvé des difficultés comme celle-là. Et puis là, ben, à froid, ça va mieux de réfléchir à ça que quand on est dedans. Et, tu sais, comme quelqu'un qui souffre de dépression, une chrétienne, tu sais, un chrétien, ou d'anxiété, ou de santé mentale. Pourquoi, Seigneur, tu sais? Je comprends pas. Et puis, on pourrait dire, quelqu'un, il s'est fait frapper en auto. Puis là, il va rester avec des séquelles longtemps. Ben oui, ça fait 8 ans, tu sais, j'ai eu mon accident. Puis là, ça me fait encore mal. Pourquoi? Pourquoi que ça l'arrive comme ça? Ou un toaster qui fait défaut. Puis on arrive à même. Puis là, coudonc, Seigneur, tu sais, je pense que j'étais à mon affaire, tu sais. Pourquoi tu permets ça, une niaiserie de même? Tu sais, c'est plus difficile là à décoder, à interpréter, à comprendre. Une restructuration dans l'entreprise, et puis il y en a une gang, puis tu fais partie de la gang qui sont slackés. C'est vraiment dur, ça. Tu avais des paiements, tu as des engagements, des responsabilités, tu veux faire à ton affaire. Mais là, gars, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, tu sais, un enfant qui souffre, tu sais, le cancer, veux-tu bien me dire pour qu'est-ce qu'il a fait? Pour mériter ça. Non, ça commence à aller... Tu sais, au début, c'était « Pourquoi, Seigneur? » Puis là, ça commence à changer de ton. « Pourquoi, Seigneur? »
Tu sais, il y a la colère qui se mélange là-dedans. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. La même question. Mais là, ça commence à faire. Tu sais, je parle aux gens, tu sais, je pensais pas qu'ils étaient capables de me faire un coup de cochon de même. Mon enfant. Puis là, on comprend plus. Ça a plus d'allure. C'est pas correct, tu sais. Ça fait 10 ans que ça fait mal. Pourquoi qu'il faut que j'attende 10 ans avant de mourir encore? Là, il y a des explications. Non, écoute. Le Seigneur, il a jamais rien fait là-dedans. C'est Satan. Ah, OK. Puis là, tu sais, il y en a bien disposés qui cherchent à excuser Dieu. Puis l'excuse dure à peu près 5 minutes. Parce que là, mais pourquoi Dieu a permis à Satan? Ça arrange rien, dans le fond. Je sais qu'il y a des théologies, puis il y a des églises qui prennent... Non, c'est Satan. Dieu, là, il est vraiment, là, arrête de penser à ça, là. Dieu, il n'a rien fait là-dedans. Mais oui, mais... Pourquoi qu'il n'est pas intervenu avec Satan? Pourquoi qu'il l'a laissé faire? Comprenez l'idée? Tu sais, c'est difficile, on peut se le dire, d'expliquer le monde, la souffrance, le mal, et de dire que Dieu est parfaitement en contrôle. Mais c'est encore plus difficile de dire, d'expliquer le monde, la souffrance et le mal, en disant que Dieu n'est pas tout à fait en contrôle, puis que Satan, c'est lui qui run le mal. Non. C'est sûr, c'est une grosse question, là, mais bon, on dirait que ça revient toujours à Dieu. Tu sais, on remonte la filière là, des causes à effet, puis là, en haut, ben ça s'arrête là. C'est à Dieu. Et puis, c'est difficile. C'est pas facile. Et puis, je me suis aperçu, tu sais, en travaillant dans les écoles, en psychologie, je rencontrais juste des personnes qui souffraient. Puis, des fois, je me suis fait ramasser. Tu sais, j'avais des belles affaires, puis là, le petit jeune, non, ça passait pas. Puis, j'ai comme appris, il faut rester très humble là-dedans. Je peux pas expliquer la souffrance des autres. Tu sais, l'histoire de Job, là, vous connaissez l'histoire de Job? Tu sais, un gars riche, béni par Dieu, puis en une journée, il perd tout. Toutes ses possessions, ses chameaux, ses moutons, tous ses serviteurs, tous ses 10 enfants dans la même journée. Et puis, là, ses amis sont venus le voir parce que c'était très émouvant, tout ça. Et puis, pendant 7 jours, ils sont restés auprès de lui en silence. Puis là, tout allait bien. Puis c'était comme un réconfort. Puis Job qui disait rien. Ouais, tout ce qui lui restait, dans le fond, c'était sa femme qui disait « Renie Dieu et meurs ». Il en était resté, mais un peu plus pour le démoraliser. Donc, ses amis viennent, ils disent rien, devant l'immensité de la souffrance, de l'épreuve, ils disent rien, puis là, le Job, il se laisse aller, il s'évente un peu, puis là, pourquoi maudit le jour où je suis né, tu sais, quand l'homme est venu dire à mon père, était né un garçon, que son nom périsse, blablabla, que ce jour-là soit enlevé du calendrier, puis... et là, les amis de Job, ils ont essayé d'aider, de conseiller. C'était des consolateurs fâcheux. C'est là que ça a mal été. Fait que je me dis, tu sais, on va parler de ce sujet-là, de la souffrance, il faut faire bien attention. Il faut rester bien humble dans tout ça. Puis eux autres avaient comme une explication de dire, écoute, Restons logiques. On voit bien qu'il t'arrive un malheur extraordinaire. Mais Dieu est parfait. Dieu est juste. On ne peut pas lui reprocher des torts. Donc, si Dieu a permis un malheur extraordinaire, c'est donc qu'il y avait des causes extraordinaires. Fait que Job, fais un examen de conscience. Sûrement que tu as fauté quelque part. C'est pas la faute à Dieu. Tu es d'accord avec moi? Donc, c'est ta faute. C'est un ou l'autre job. Fait que, tu sais. Puis la logique semblait bonne. Mais là, ils se sont fait reprendre même par Dieu. Ces trois-là, Zophar, Bilhad, j'oublie. Ils se sont fait reprendre, non, parce qu'il y avait d'autres raisons. Eux autres, c'était comme une... Et puis c'est vrai que ça arrive souvent comme ça. La justice rétributive. Tu fais le mal, ben tu vas payer pour. Tu craches en l'air, ça va te tomber dessus. Puis, habituellement, dans les proverbes, habituellement, c'est vrai, ça marche de même. Celui qui vole, il va se faire pogner, il va payer pour. Mais c'est plus compliqué que ça. Il y a plus de nuances dans la réalité. C'est sûr que nous, on s'interroge quand ça nous arrive, le malheur. Puis que là, ça, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Et là, tout ce que je veux dire, c'est que c'est pas simple, c'est pas compliqué. En tout cas, c'est pas simple pour moi. Donc, de faire attention. Là, j'essaie de ranger mon affaire, excusez-moi. Donc. Fait que c'est ça. Est-ce que la Bible nous donne des raisons, un petit peu, d'autres raisons que simplement ça? Tu as dû faire du mal. Et puis, qu'est-ce que pourraient être ces raisons-là? Et il y avait un personnage à la fin du livre de Job, puis quand on le lit vite de même, il a l'air fanfaron, il a l'air prétentieux. Vous, les trois, là, j'ai rien dit, OK, Job, les trois, je vous ai écouté, ben moi, je suis plus jeune. Mais maintenant, c'est à mon tour de parler. Puis là, la sagesse va sortir, tenez-vous bien. Puis là, il parle comme un petit prétentieux, fendant, puis tout ça. Puis là, pendant 6 chapitres de long, je pense, ou plus, et puis Job, il y en a qui disent, il se donne même pas la peine de lui répondre à Élieu, parce que c'est tellement insignifiant son affaire. Mais moi, je le sais pas. Mais je veux dire, on va écouter quand même qu'est-ce qu'il dit. Parce que Dieu l'a pas chicané, lui. À la fin. Il ne l'a pas repris. Et dans son discours, il y a peut-être des bonnes affaires pour nous. Si on le lit, et là, c'est Job là, qui est Élieu, le personnage, qui s'adresse à Job, celui qui vit toutes ces épreuves-là catastrophiques. Dans Job 33, verset 8. Élieu dit à Job, « Mais te dis à mes oreilles, et j'ai entendu le son de tes paroles. Tu disais, je suis pur, je suis sans péché, je suis net, et il n'y a point d'iniquité en moi. » Puis dans un sens, c'est vrai, Job, il avait comme dit ça, « tu sais, écoute, j'ai rien fait de mal, là, les gars, arrêtez de m'accuser. » Puis même Dieu il avait dit, à Satan, au début, tu sais, dans la petite introduction que Job lui connaissait pas, Dieu avait dit, Satan, parce que Satan se réunissait avec les fils de Dieu, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait là, dans le ciel. Ah, as-tu vu mon serviteur Job? Parfait. Droit. Craignant Dieu. Se retirant du mal. Hein? C'est quand même pas pire, hein? C'est comme s'il voulait, donner des idées à Satan. « Oh, oui, je sais, c'est parce que t'as mis tout, tu l'as béni, regarde comment tu l'as béni. » Fait que, c'est sûr, il le fait par intérêt. C'est pour ça qu'il te craint. Mais Dieu disait quand même, c'était un bon gars. Puis arrêtez de m'accuser, de l'accuser. C'est vrai, c'était un bon gars. Ben, en tout cas, si on peut être bon. En tout cas, c'était pas un criminel. Et, donc... Élieu, il dit, t'as dit ça, Job, que t'étais sans péché, hein? Mais, je suis pas d'accord, OK? Il continue, verset 9, OK? Je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point d'iniquité, en moi d'iniquité. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Il me traite comme son ennemi. On a dit, Dieu est pas correct avec moi. Il met mes pieds dans les ceps, il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai,
que dit Élieu à Job,
« Quand cela, tu n'as pas raison. »
C'est vrai que t'es juste, tu marches droitement, mais il n'y en a pas de parfaits. Il n'y en a pas qui sont parfaitement purs. Car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui? Parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. Il n'y a pas de compte à rendre, il ne te rend aucun compte, c'est vrai. Puis Job, lui, il était dans le noir, il ne comprenait rien. Dieu ne lui avait pas donné d'explication et il ne lui en donnera pas. Continuons. Est-ce que la contribution d'Élieu, il dit, Dieu parle cependant. Il ne te rend pas des comptes, mais quand, il parle quand même. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil et quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements. Puis là, il nous arrive comme ça des petites pensées, des petites idées. Dieu nous avertit subtilement. Et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal. Il est averti, il y a des avertissements pour détourner du mal. Et le préserver de l'orgueil, au cas où. Tu sais, Job, tu faisais des sacrifices pour tes enfants, quand ils faisaient la fête ensemble, pour eux autres, tu dis sacrifices, au cas où. Ben Dieu aussi, au cas où, pour te préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Et là, il y a un autre passage, ça continue, OK? Mais j'introduis l'idée, mais Élieu introduit l'idée, qu'il peut avoir une raison d'avertir, puis de détourner du mal. Tu sais, on se pose des questions sur la souffrance. Et puis Billy Graham, le grand évangéliste, là, on lui avait posé des questions sur la souffrance, puis il avait répondu, « Je sais pas quoi dire, pourquoi Dieu permet des atrocités comme ça. » Mais j'ai remarqué, au cours de mon ministère, que plusieurs des personnes qui venaient à Jésus étaient poussées par la souffrance. Donc, il y avait un avertissement afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive, de le préserver de l'orgueil. Et puis là, regardez bien l'orgueil parce qu'on va voir un texte un peu qui va démontrer ça dans le Nouveau Testament. Quelqu'un qui a souffert pour être préservé de l'orgueil. Un peu comme une application de ces paroles-là. Si on continue. Dans Job 36, un peu plus loin, on passe de 33 à 36. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il les place sur le trône avec les rois. Il les y fit asseoir pour toujours afin qu'ils y soient élevés. Viennent-ils à tomber, le juste, dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité, la tentation, puis tout ça? Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte pour se détourner de l'iniquité. Et là, je saute un peu plus loin, verset 15. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Il n'est pas tombé dans le mal, mais il s'en va vers le mal. Et Dieu utilise la souffrance pour l'avertir, pour le guider, pour le protéger, pour son bien. Et je trouvais que l'idée de l'appliquer à Job était bonne. C'est comme si Job, à la fin, il a donné raison de ça, face à ça. Et parce qu'on voit Job à la fin. Ah oui, je ne l'avais pas mis, là. Vous ne pouviez pas le lire. OK, on va le regarder quand même, OK? Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil, les avertit, encore là, pour leur instruction. Il les exhorte de se détourner de l'iniquité, verset 15. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. C'est un peu ça, la thèse, l'idée,
nouvelle que Élieu introduit. Il dit, c'est pas parce que tu avais fait le mal, c'est pour t'empêcher de faire le mal. Ah! Là, tu ramènes une autre option à laquelle je n'avais pas pensé, que je n'avais pas envisagé. Puis Job, justement, il répond. Job répondit à l'Éternel et dit, à la toute fin, OK. Élieu a parlé ces 6 chapitres. Dieu a parlé longuement aussi. Et là, Job répond et dit, OK, c'est beau. Je reconnais que tu peux tout, puis que j'ai pas de compte à te rendre, que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Parce que Dieu avait commencé avec ça. C'est qui, là, qui sans connaissance, qui vient obscurcir mes desseins? Il dit, c'est vrai. Oui, j'ai parlé sans les comprendre. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, Dieu. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Fait que la souffrance, le fait de grandir, le fait de progresser. C'est pourquoi je me condamne, je me repens sur la poussière et sur la cendre. De dire, j'ai parlé mal. Tu sais, quand j'étais fâché, que je t'accusais de me considérer comme ton ennemi, dans le fond, c'était prêté des intentions que c'est pas, j'étais pas correct quand j'ai fait ça. Et tu peux avoir tes raisons, je les connais pas, mais sûrement que c'est des bonnes raisons. Tu sais, ça fait penser à l'épisode quand l'enfant est petit, puis il faut qu'il y ait un vaccin. Le papa l'amène chez le docteur. Le docteur il dit, ben là, tu sais, il gigote trop, tu sais, faites de quoi, tu sais. Là, le père, il le tient. Là, le petit est effrayé. Tu sais, le docteur, avec sa grosse seringue. Tu sais, papa, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Tu collabores. Tu m'as trahi. Pourquoi tu m'as fait ce coup-là? Tu l'as laissé me blesser. Tu sais, il comprends pas. Puis là, ce serait facile de prêter des intentions malveillantes au père, quand dans le fond, c'est tout le contraire. Et là, ça l'ouvre un petit peu, cette affaire. Non, non, c'est pas parce qu'il t'aime pas. C'est pour t'aider. Et oui, tu es un juste, mais t'es pas parfait. Puis oui, il y a des choses à corriger, des choses à te protéger de tomber. Toi aussi, Job. Fait que Job admet que Dieu avait raison. Et c'est ça, que Dieu avait raison. Et Paul aussi, on va voir, admet que Dieu avait raison. Dans 2 Corinthiens 12, au verset 7 à 10. Et Paul, il commence avec ces mêmes paroles-là. Pour me protéger, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Même Paul pouvait avoir l'orgueil. À cause de l'excellence de ses révélations. Fait que Paul, il y avait eu des visions. Tu sais, c'est pas tout le monde, tu sais, que Dieu est apparu 4 fois sur le chemin de Damas, à Corinthe, pour lui dire, pas peur, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et puis là, tu sais, dans ce passage-là, puis, tu sais, c'est pas tout le monde, tu sais. Puis Paul, c'est comme le Moïse du Nouveau Testament. C'est lui qui développe toute la Nouvelle Alliance dans la théologie, en tout cas, qui met ça clair. Fait que c'est... Il pouvait tomber dans l'orgueil. Il avait des raisons. À cause de l'excellence de ses révélations, il m'était mis une écharde dans la chair. C'était quoi, cette écharde-là? Il dit, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Fait que pourquoi cette souffrance-là de l'écharde dans la chair? C'était pour me protéger de tomber dans l'orgueil. Tu sais, si même celui qui vous parle peut facilement tomber dans l'orgueil, pas lui, même moi sans raison, je peux tomber là-dedans, dans l'orgueil. Paul avait vraiment, lui, des bonnes raisons de tomber dans l'orgueil. Tu sais, si j'avais eu ça, tu sais, des fois je me dis, Seigneur, donne-nous de la puissance, de faire même des miracles aujourd'hui. Le monde comprendrait, là, quand on est à Saint-Tite, ou le monde comprendrait, tu sais, à l'université, là, puis arrêterait de sortir leur objection. Mais, non, je peux pas te donner ça. Toi, tu sais, tu serais pas capable de gérer ça. Mais Paul, lui, il l'avait fait, puis tu sais, des mouchoirs qui traînaient, ça guérissait du monde, puis c'était Pierre, là, mais tu sais, il y avait cette puissance-là incroyable. Mais Paul aussi, là, tu sais, quand le boiteux à l'Istre, là, qui a dit, là, lève-toi, puis qui a vu qu'il pouvait être sauvé, il avait la foi pour être sauvé. Là, les gens le prenaient pour un Dieu, pour Zeus, ils voulaient lui faire des sacrifices. Hey, ça monte à la tête, ça, facilement. Ça pourrait, en tout cas. Mais Paul était donc conscient de ça. Tu sais, il disait, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti afin d'être moi-même réprouvé après avoir prêché aux autres. Et cet ange-là, donc, qui lui était envoyé, une écharde, c'était un ange. Un ange de Satan. Apparemment, à Corinthe, il se faisait beaucoup critiquer. C'était des gens grecs, tu sais, intelligents, puis tout ça. Ils étaient pervertis, mais tu sais, ils étaient devenus chrétiens. Et puis, il est arrivé des faux enseignants qui disaient, tu sais, de Paul, « Car dit-on, juste les deux chapitres d'avant, « Ses lettres sont sévères et fortes, mais présents en personne. » C'est ça qui circulait, là. Il disait de lui, « Il est faible et sa parole est méprisable. » Il se faisait vraiment varloper par ces gens-là, qu'il n'est pas éloquent, il n'a pas le don de parler. C'est rien, ça. Puis s'il souffre, qu'il est faible, c'est que Dieu n'est pas avec lui. C'est bien évident. Il mérite de souffrir comme ça. Tu sais, toutes les difficultés, non, Dieu ne le bénit pas. C'est évident. Puis de toute façon, il cherche votre argent. Il fait rien que ça, quêter, puis il veut mettre de l'argent de côté, puis tout ça. Il est à l'argent, ce gars-là. Puis là, il voulait les faux docteurs envoyer, puis ça dit... Deux Corinthiens 11, le chapitre juste avant, il dit, « Mais j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte. » Fait qu'il y avait des gens mal intentionnés. « Afin qu'ils soient trouvés tels que nous, dans les choses dont ils se glorifient. » Ces hommes-là, ce sont de faux apôtres. Fait que peut-être, tu sais, que l'ange de Satan, le leve-là, là, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres, les gens, les faux apôtres qui étaient à Corinthe puis qui parlaient contre Paul, parce que là, si on le discrédite, on pourra changer la doctrine des judaïsants puis tout ça. Fait qu'il fallait qu'ils discréditent Paul, le fondateur de l'Église. Puis Paul, lui, il souffrait de tout ça. C'est mon Église, Colline. J'ai passé 2 ans là-bas. J'ai sué, puis j'ai travaillé, puis j'ai tout fait. Je me suis donné. Puis là, ça va tout partir. Non, ça se peut pas, Seigneur. Je te prie, enlève-les, ces gens-là. Cette écharde dans la chair qui me fait souffrir tellement. Enlève-les. Tu sais... Et peut-être qu'ils invoquaient des psaumes imprécatoires sur eux, tu sais, liquide-les, puis fais-les périr, puis ils persévéraient. Donc, verset 15, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. C'est des faux, leur fin sera selon leurs œuvres. Je le répète que personne ne me regarde comme un insensé. Ben, c'est sûr qu'ils pensaient que c'était un insensé. Fait que là, ils se faisaient tout critiquer, puis c'était ça là, qui était dur, là, les chardes dans la chair, un ange. Ben, c'est ça, une interprétation. Donc, si on reprend notre passage, je reprends la logique, OK? On a comme une explication simple de justice rétributive. Tu mérites ce que tu as. Élieu dit, ben oui, habituellement c'est ça, mais des fois aussi, non. Dieu nous protège en utilisant la souffrance. Un exemple, dans le Nouveau Testament, on voit que Paul était protégé de s'enorgueillir par une écharde dans la chair. Fait que vous voyez l'exemple, l'application un petit peu de ce qu'Élieu tente d'introduire comme autre raison. Et ça peut nous aider, nous autres, quand on vit des difficultés, quand on tente d'expliquer les choses qui nous font souffrir, peut-être que Dieu est en train de me travailler. Et donc, dans ce passage-là de Paul, il explique, là, c'est vraiment clair, tu sais, pour m'empêcher de m'enorgueillir. Et là, une autre bonne raison, il dit 3 fois j'ai prié Dieu. Et souvent, ça a ça comme effet. Quand on est démoli, qu'on passe par des difficultés, ça nous rapproche de Dieu. Et dans notre groupe maison, on a eu des longues discussions. Je vois Hélène qui sourit. Je peux en parler un petit peu? Ne dérange pas. Notre frère, notre sœur, ont vécu des grandes difficultés avec un voisin, donc qui dépendait, la source d'eau était sur leur terrain, puis que là, il donnait bien du trouble, qu'il voulait couper l'eau. Ben voyons donc. Puis qu'il ne recouvrait pas le tuyau comme il faut en hiver pour pas que ça gèle. Voyons donc. Notre maison, on va perdre. Là, c'était une grande souffrance. Mais ça les a rapprochés de Dieu. Ils nous expliquaient, là, de semaine en semaine, là, la saga, les péripéties, les anxiétés, la prière, comment ils s'est rapprochés de Dieu, qui intercédait pour ça, qui recevait une paix, une consolation. C'est ça. Un des bienfaits aussi que Dieu peut permettre la souffrance, c'est de nous rapprocher de lui. Tu sais, j'ai jamais prié autant que ça. Depuis que j'ai mon cancer, depuis que mon enfant est malade. Ben, ça sonne bon. Et puis, juste pour dire, l'histoire a très bien fini pour Jean et Hélène. Et puis, tu sais, ça n'a été que des actions de grâce. Toutes ces malheurs-là, ça a été beaucoup de consolation à la fin. Un beau témoignage aussi. Gloire à Dieu. Tu sais, Mike Fast aussi était venu nous parler. Tu sais, c'était spécial, tu sais. Bing, bang, cancer, foudroyant, puis mais qui était préservé, proche de Dieu, comme dans une bulle protectrice, dans sa souffrance. Vous vous en souvenez? Et garder, tu sais, une paix qui surpasse toute intelligence. C'était pas rationnel. Oui, c'était la main de Dieu qui était, puis j'étais proche de lui. Tu sais, c'était pas le temps, là, maintenant, de chercher. Je les avais, les versets me revenaient, puis tout ça. Et puis, qui était content d'être prêt, un peu, tu sais, puis d'être proche du Seigneur pour pouvoir être soutenu dans cette grande épreuve-là pour lui et sa famille. Et puis, les Anglais, ils disent... Parce qu'un autre des bienfaits, il dit, trois fois j'ai prié le Seigneur de m'éloigner, mais il m'a dit, ma grâce te suffit. Fait qu'une autre bonne affaire aussi, ça vient manifester la grâce du Seigneur. Hein, les Anglais disent, man's extremity is God's opportunity. Fait que, j'avais essayé de la traduire ici, là. Dieu a l'occasion de manifester son aide gracieuse quand l'homme arrive à l'extrémité de ses ressources. Fait que là, Paul était donc dépendant, impuissant, faible, puis tout ça. Et il dépendait de la grâce. Et là, c'était une bonne occasion pour Dieu de manifester de la grâce parce qu'il était au bout de son rouleau, au bout de ses capacités. Tu sais, souvent, il y en a qui disent, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais la Bible dit pas ça. La Bible, c'est le ciel va t'aider quand tu arrives au bout de ton rouleau, que tu n'es plus capable de t'aider. Ça ne dit pas de pas être irresponsable puis de pas tenter des choses de manière responsable, mais de la grâce. Ma grâce te suffit. Elle intervient quand on est au bout de nos ressources. Et puis, il conclut ici, « Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Tu es dans un état de faiblesse, Paul. Tu es vraiment désarmé parce que ces faux docteurs-là, des anges de Satan, ils sont dans l'Église, puis ils mènent le trouble, ils t'accusent de tout, de 100 mots. Puis c'est pas vrai, tu as été correct. Tu es ferme, mais tu vas voir, ma puissance va se manifester. Et dans le fond, il faut qu'on passe par un brisement. Moïse, là, quand il avait 40 ans, il avait sa force qui n'était pas brisée. Il a pogné un Égyptien, puis il l'a punché, puis il l'a tué. Hein? Et là, il avait cet appel-là. C'était le bon gars, mais pas au bon moment, puis il n'était pas brisé. Il y avait 40 ans. 40 ans plus tard, là, c'était le bon gars au bon moment parce qu'il était brisé. Un petit berger dans le désert, tu sais, qui gardait même pas son troupeau, c'était le troupeau de son beau-père. Et là, le Seigneur l'appelle justement pour la grande œuvre à laquelle il avait tant soupiré, puis la délivrance de son... « Oh, envoie qui tu voudras. Non. Ça me tente plus. » Ben là, je peux me servir. Là, ma puissance peut s'accomplir dans la faiblesse. Parce que c'est comme s'il dit, c'est soit ta puissance ou ma puissance. Fait que quand tu dis, non, j'ai plus de puissance, je suis plus capable, OK, là, ça va être clair que ça va être ma puissance. C'est comme Abraham aussi. Abraham, il a 86 ans, là, il s'en va vers Agar, la servante de Sarah, avec son accord. Et là, c'était sa puissance virile pour avoir un enfant. Paquet de troubles. Plus tard, à 99 ans, là, quand il y a eu la nouvelle qu'il y aurait un enfant, il trouvait ça comique. Sarah aussi, partie à rire. Voyons donc, ma femme était stérile, puis en plus, elle est trop âgée. Ma puissance, là, puis moi, il dit, j'ai un corps atteint par la mort, que c'est dit dans Romains. Ne doutant point, même avec son corps atteint par la mort, il a fait confiance à Dieu. Et là, c'était plus sa puissance sexuelle, on pourrait dire même. C'était la puissance de Dieu qui lui a donné le fils de la promesse. Là, la puissance de Dieu pouvait se manifester. Donc, on voudrait cette puissance-là, mais c'est ça de... Quand on arrive au bout de notre puissance, c'est là que sa puissance peut se manifester. Et là, on voit la suite. « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. » Parce qu'il avait compris la dynamique, la mécanique, un petit peu. « Je m'efface. » Ta puissance rentre. Ta puissance, c'est comme un gros bulldozer. Tu sais, il n'y a rien pour arracher toutes les souches puis tout ça, que moi, ma puissance, je n'étais pas capable. Non, c'est ta puissance que je peux voir agir. Fait que je me glorifie de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, si on récapitule un petit peu, c'est pas le fun d'être faible, c'est pas le fun de souffrir de cette façon-là, d'avoir une écharpe dans la chair, mais que c'était bon pour lui, ça le rapprochait du Seigneur, ça développe, ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Mais c'est beau, je vais souffrir des choses que tu as bien voulu pour moi. Et là, dans le fond, ce que j'essaie de faire en disant tout ça, c'est d'essayer de trouver des raisons pour nous réconcilier avec les circonstances qui pourraient nous mettre en colère, qui pourraient nous décevoir de Dieu. Et on peut voir aussi d'autres versets qui parlent un peu dans ce sens-là. David, le mot humilié, là, c'est le même qu'affligé. Dans Psaume 119, c'est tout dans Psaume 119. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais ou d'avoir été affligé. Maintenant que j'ai été affligé, j'observe ta parole. Verset 11. Il m'est bon d'être affligé ou humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Verset 75. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité, pas parce que je suis ton ennemi. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Mais là, c'est beau, là. Ça passe déjà beaucoup mieux que cette souffrance-là qui n'a pas de sens, qui n'a pas de but et qu'on soupçonne le mal. Et là, lui dit, non, écoute, je ne sais pas pourquoi je te fais confiance. Et c'est par fidélité que tu m'as humilié. Et là, j'aimerais ça conclure avec ce passage-là dans Jacques, et puis qui fit très bien avec cette journée de dimanche d'Action de grâce. Comme je disais que ça fitait pas, là, mais
Ça dit dans Jacques, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Là, c'est vrai qu'on peut se dire, ça semble étrange. Hein, quand... Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Fait que là, on sait qu'on va souffrir. Ça veut dire, on vieillit, juste le vieillissement naturel. Si vous êtes chanceux de vieillir, c'est aussi de la souffrance. Tu sais, c'est Job qui disait ça, l'homme est fait pour souffrir comme une étincelle est faite pour voler. Tu sais, le soir, tu sais, tout le monde, c'est des tribus, il allumait un petit feu, puis tout ça, puis ça crépitait. Ben c'est ça, l'homme. L'homme est fait pour souffrir comme une étincelle est faite pour voler. Et là, c'est comment là, faire face à ça. Maintenant, sachons, si on admet, OK, tu as des bonnes raisons. Moi, je pensais que tu n'avais pas de raison, mais là, tu as des bonnes raisons. Et là, comment je peux faire là, pour mieux vivre ces moments de souffrance? Là, Jacques nous dit, Dieu nous dit par Jacques, il dit, réconcilie-toi avec ça, là, puis prends-les, change d'attitude. Quand tu dis, pourquoi? Change d'attitude comme un sujet de joie. Il s'occupe de toi. Tu ne comprends pas, mais il s'occupe de toi comme un sujet de joie complète. Fait que là, c'est ça, rendez grâce en toute chose. OK, sinon c'est beau. Mais moi, si je travaille sur mon attitude, puis quand ça l'arrive, mais je vous le dis, là, des fois, moi aussi, ça m'éprouve, c'est sûr, c'est une épreuve. C'est normal, mais ça m'éprouve. Mais là, il faut que je travaille mon attitude. Alléluia. Puis, non, c'est beau. Ça a l'air qu'on recommence. Puis, ça marche pas. Donc, il nous donne des conseils ici. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant. Fait que là, c'est comme s'il faut qu'on ait un acquis au niveau de la connaissance. Rentre-toi bien ça dans la tête. Cette souffrance-là, cette épreuve-là, elle va produire quelque chose. C'est pas pour rien. Toi, tu vois pas, mais ça mène à de quoi? C'est utile. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ouais. C'est quoi la patience? Là, c'est comme le contraire de se fâcher. Hein? On pourrait dire ça? Si je ne suis pas patient, je vais me fâcher. Mais si je suis patient, je vais faire confiance. Non. Je ravale, là, puis j'ai pas le goût de parler, là, mais je fais confiance, là, puis je sais qui m'aime. Tu sais, je sais qui est en contrôle. Je sais pas pourquoi, mais sûrement que ça va produire de quoi. Mais tu vois, mon attitude, là... C'est ça qui l'honore aussi. Ça, c'est une attitude de foi, puis qui lui rend gloire. Hein, Seigneur, ça, regarde mon serviteur, tu sais, ma servante, comment qu'elle... Regarde son attitude, comment c'est beau. Et puis, ça, les autres regardent aussi, puis c'était un athée. Il était dans la vingtaine, puis il était docteur. Et puis, il est devenu un chrétien, un beau chrétien. Francis Collins. Il est super intelligent. C'était lui qui était en charge du décodage du génome humain. Puis, tu sais, les COVID, là, puis tout ça, les vaccins, là, il était en charge de l'équipe, là. Tu sais, Fauci, là, le gars qu'on voyait aux États-Unis qui parlait, là, mais c'était son boss à lui. Et puis, il travaillait donc comme médecin, et puis il voyait des gens souffrir. Mais il y avait cette femme-là, qui souffrait, c'est sûr, énormément, mais elle dit qu'elle a été utile pour sa conversion. Puis dans sa souffrance, elle dit, toi, docteur, tu crois-tu en Dieu? Lui, il était athée, sa famille était athée, il avait grandi là-dedans, puis il était très heureux comme ça.
sûrement, docteur, que vous croyez en quelque chose. » Puis là, il dit, j'ai figé, je savais pas quoi répondre. J'avais jamais vraiment pensé à tout ça. Mais elle dit, je remarquais que ceux qui avaient la foi, les croyants, les chrétiens dont ils étaient entourés, ils souffraient différemment. C'était pas pareil. Et là, ça l'a fait amorcer la roue de réflexion qui a amené à sa conversion, que les chrétiens souffrent pas pareil. Donc, ça produit quelque chose, produit la patience. Puis la patience, ça l'honore Dieu, parce que c'est un geste de foi, une déclaration. Malgré toutes les circonstances que je peux voir qui me sont contraires, qui me prouveraient le contraire à ton sujet, je te fais confiance en ton contrôle, ta puissance, ton omniscience, tu sais tout et tu m'aimes. C'est pas vrai. Tu sais, je vois là toutes les évidences, mais au-delà de ces évidences matérielles, l'œil de la foi discerne un Dieu qui aime. Et ça l'honore Dieu, et c'est un témoignage en soi. Les autres que le docteur Fauci, que le docteur Francis Collins a pas, à qui il a pas parlé, il a quand même vu sans parole. Il y a juste cette madame-là, la vieille, qui souffrait, puis qui en est morte de ça, qui a eu la liberté puis l'audace de lui parler. Puis toi, sûrement que tu crois en quelque chose, mais il pouvait pas écarter ça du revers de la main, parce qu'il voyait qu'il y avait quelque chose de différent dans ces croyants-là, qui souffraient différemment. Donc, on achève bientôt. Votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ça nous travaille, ça nous fait grandir. On est, tu sais, on voit un vrai pilote d'avion, là, pas quand que c'est, il fait tout beau, c'est dans tempête, ou un pilote de bateau. Hein, c'est pas quand c'est calme plat. C'est là qu'on voit, OK, il y a de l'expérience, c'est bon, ici où est-ce qu'il s'en va. Mais c'est un peu la même chose. Ça nous travaille. On ressort grandi. Notre foi, là, que on pouvait peut-être pas tolérer, là, on en prend un peu plus. Tu sais, comme Hélène, tu sais, les choses qu'elle a vécues avec sa maison, avec Jean. Mais là, finalement, la prochaine épreuve, elle a ça, là, de gagner puis d'acquis. OK? Le Seigneur, il s'occupe de nous. Donc, accomplisse parfaitement son œuvre, ça nous travaille. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ou l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Je ne sais pas c'est quoi au juste, mais c'est beau. C'est la couronne qui dépose aux pieds de Jésus, une couronne de justice, une couronne de gloire, une couronne de vie. C'est peut-être la même affaire, mais ça vaut la peine. Cette patience-là sera récompensée. Puis quand Jésus dit « ça va être récompensé », ça va être récompensé, ça va vraiment valoir la peine. C'est comme, tu sais, heureux quand vous souffrez, puis tout ça, que vous êtes persécuté en mon nom, grande sera votre récompense. Il parle pas en vain, il y aura une grande récompense dans ces souffrances-là d'avoir persévéré avec confiance. Est-ce qu'on termine en priant? Seigneur grand Dieu, merci pour ces avertissements que tu nous donnes dans la Bible, qu'on peut recevoir comme ça ce matin calmement. Et on te prie que tu viennes affirmer notre foi, affirmer notre connaissance que tu es un Dieu qui est bon. Nul n'est bon que Dieu seul. Tu es un Dieu qui est vraiment bon. Et même au sein de nos souffrances, tu travailles pour notre bien. Toute chose concourt au bien de celui qui aime le Seigneur. Seigneur, fortifie notre foi et donne-nous de t'honorer dans les épreuves qui vont venir, comme aussi assuré que l'étincelle est faite pour voler. Ça va venir, qu'on puisse t'honorer, pas maugréer, pas murmurer, pas se mettre en colère, mais te donner gloire en toute chose, te rendre grâce en toute chose. Et on te prie pour cette faveur dans le nom puissant de Jésus. Amen.